Peut-être les feux qui les déciment sont-ils français. On ne voit plus un officier. Les gradés se découragent. Les hommes commencent à s'affoler. C'est un traquenard. On va finir dans ce putain de bois. Damien n'a pas peur des forêts. Il est surpris de n'avoir pas peur du tout. Profitant d'une accalmie dans la fusillade, il se redresse et entraîne la section sur la gauche, au hasard. Ce faisant, il s'éloigne du feu roulant de la canonnade. Il entend la sonnerie de la charge, y a la goutte à boire, là-haut, y a la goutte à boire, inutile d'y retourner, se dit-il. La petite colonne marche encore longtemps dans la forêt, puis débouche enfin en lisière du bois. Les hommes, soulagés, s'embrassent plaisantes, Damien est inquiet. Il a fait du mieux qu'il a pu, mais qu'a-t-il fait? Ils sont sur une hauteur, et peuvent apercevoir en contrebas des champs, entre des bouquets d'arbres, de petits villages aux toits rouges. On ne voit pas un soldat mais le paysage est piqué d'étoiles blanches ou noires, salies par l'éclatement incessant des shrapnels. Derrière eux maintenant, le roulement du canon se fait moins fort. La nuit va tomber, Damien remet son monde en route, il a trouvé un chemin qui descend vers la plaine de l'autre côté du bois, où désormais la fusillade a cessé. Il craint seulement de rejoindre les lignes ennemies, mais se dit-il, il n'y a rien d'autre à faire qu'à marcher. Il marche longtemps en silence. C'est la nuit à présent. Enfin, il débouche sur une grande route bordée de peupliers. Après quelques minutes, une silhouette se dresse devant eux. « Et allez donc, où allez-vous, qui commande ici ?» C'est un officier d'artillerie enveloppé dans son grand manteau à collet. 89 d'infanterie, 2e compagnie, 1ère section. « Nous nous sommes perdus dans les bois de Rossignol. Eh bien restez ici, dit l'officier. Vous protégerez mes batteries pendant la nuit. » Le long de la route, des 75 sont alignés. Ce sont peut-être ceux-là qui les rendaient sourds tout à l'heure. Les canonniers ronflent sous les caissons, roulés dans des couvertures. Les berrichons et le petit parisien s'étendent dans les fossés, tout équipés, le sac sous la tête et le fusil entre les jambes. Une pluie fine commence à tomber. Les hommes qui ont froid se serrent les uns contre les autres. Au fond de la musette, sous les grenades, il reste à Bedieu un morceau de pain tout couvert de rouille. Il en tend la moitié à Damien, qui le partage à son tour. « Je me demande bien ce qu'ils sont devenus, les autres, » dit une voix. « T'en fais pas, » répond Damien sans y croire. Puis c'est le silence. Au moment de s'assoupir, Damien est réveillé en sursaut par un cri. « Alerte, les Uhlans, tous bondissent sur la route, en tirailleurs, le fusil à la main. « France, » dit une voix dans la nuit. « Ce sont des chasseurs d'Afrique qui regagnent les lignes. » Trop énervé pour s'endormir, Damien roule une cigarette de gris. Plus tard, vers 4 heures, un canonnier tuera une vache qu'il avait prise pour un Uhlan et qui n'avait pas obtempéré aux sommations réglementaires. Au matin, Damien et ses hommes suivirent les batteries, qui se mirent en position près d'une rivière, sans doute un affluent de la Semois. Il y avait là un grand concours d'artillerie. Les batteries belges, surtout, les étonnèrent. Les hommes en sabots, en bras de chemise, portaient d'étranges casquettes qui les faisaient ressembler à des marchands de peaux de lapin. Ils étaient familiers avec leur chef. Ils apprirent aux berrichons à tirer à la ficelle, et le soir, partagèrent avec eux le pinard et le gros cul. Le lendemain, un adjudant vint chercher Damien Courcial et ses hommes. Ils apprirent alors que le corps colonial et sa division d'appui avaient disparu dans les bois de Rossignol. Du 89, eux, il ne restait presque rien. Le colonel Nanquette était mort en faisant le coup de feu. Un homme, le petit-neveu de Gaston, le garde de Bussy, avait pu ramener les couleurs au terme d'une course épuisante à travers bois. Les berrichons, survivants, furent reversés dans un autre corps. Damien Courcial fut cité à l'ordre du régiment disparu, quelques jours après, dans un petit village des Ardennes dont les habitants avaient fui. Le voïvode Putnik était un long vieillard aux airs d'écrivain. Il se mit en état de défendre la Serbie, dont les soldats portaient les équipements français, sauf le curieux bonnet de laine grise qui leur couvrait la tête. Ils avaient aussi des 75 et quelques ambulances d'armée. Augustin s'était laissé surprendre par une voix qui lui disait de s'en mêler, de ne pas rester sans savoir. Paris avait pris son visage de guerre, exclamations et lumières étouffées. Les Sénégalais de Drude s'étaient portés aux barrières pendant que les Uhlans atteignaient Viarme. Le canon de la Marne avait tonné sans arrêt, avant que la bataille ne reflue vers ailleurs. À la pitié, Augustin, Lacombe, Lenormand et tous leurs aides opéraient sans cesse. Les convois tournaient dans la cour, on en tirerait des hommes maculés de terre et de sang. Certains étaient déjà morts. Curieusement, Lacombe peinait, débordé par ce flot, et sa bonne humeur disparue serrait les dents, toujours près de lâcher prise. Le petit Lenormand, apparemment si fragile croyait-on, se rendait au contraire indispensable. Efficace entraînant, il poussait à cette grande route installée au cœur de Paris et vers laquelle confluaient les survivants des combats. Pour ceux qui y travaillaient, il était là, le centre de la guerre. Les champs de bataille du nord et de l'Aisne n'étaient qu'une périphérie insignifiante, abandonnée aux caprices sanglants du hasard. Ils ont réveillé l'ancien chaos, disait Lenormand de son air d'égyptologue, et ses paroles n'étaient pas très différentes de celles de Nathanael. Elles éveillaient chez Augustin un écho bizarre.